RFI.
C'est le journal le plus vendu de France. Il n'appartient à aucun groupe industriel et ne verse pas de dividendes à des actionnaires. Il revendique son ancrage local, mais voit tout de même les choses au-delà, au niveau national, y compris dans les Outre-mer, et pourquoi pas même à l'international. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix d'écouter notre podcast, je vous propose une conversation avec un journaliste. Il préside le directoire et il est également directeur de la publication de Ouest-France. Bonjour François-Xavier Lefranc.
Bonjour Steven.
Bienvenue sur RFI.
Eh bien merci pour votre accueil, très heureux d'être là.
Depuis le 29 mars 2024, Ouest-France affiche une particularité à sa une, par une phrase, je cite, « une publication de l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste ». Pourquoi avoir ressenti le besoin de revendiquer cela sur la une de votre journal ?
Parce que c'est une réalité et parce qu'on ne le disait pas assez. C'est important le groupe Ouest-France, il y a Ouest-France, puis il y a d'autres titres. Il a un seul actionnaire, qui est une association.
Que vous ne présidez pas, hein,
on précise. Que je ne préside pas, et d'ailleurs on ne peut pas être opérationnel et dans l'association. Et cette association à but non lucratif, qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, elle est donc l'actionnaire unique, elle ne touche pas un centime, et elle ne verse pas d'argent, puisqu'elle n'en a pas. C'est une association à but non lucratif, et c'est le seul actionnaire. Et donc nous sommes un média indépendant, on ne peut pas racheter une association, mais surtout, ça existe depuis 34 ans. Et qui le savait ? Peu de gens. Et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui parce que, d'abord, on le doit à un homme qui s'appelait François-Régis Hutin, qui a présidé ce groupe pendant de nombreuses années, qui a été un grand, grand patron de presse et qui mettait les valeurs devant tout le reste. Et dans les années 90, il y avait pas mal d'appétits financiers autour de Ouest-France. C'était une affaire plutôt intéressante. Et il a décidé, avec les dirigeants de l'époque, de placer le titre sous la responsabilité d'une association. Donc très concrètement, il y avait des actionnaires à l'époque. Le journal s'est en quelque sorte racheté à lui-même. L'association est devenue propriétaire. Les actionnaires de l'époque ont touché la vente de leurs actions. Et depuis ce temps-là, nous dépendons donc d'une association. Dans l'association aujourd'hui, il n'y a pas du tout de famille majoritaire, contrairement à ce qui se dit parfois. Quand on est membre de l'association, je pourrais vous citer quelques noms. L'un des derniers à être entré, c'est Samuel Etienne, par exemple. Et pourquoi Samuel Etienne ? Parce que c'est un Rennais. Ses parents étaient commerçants à Rennes, et donc c'est un gars de chez nous.
Un journaliste et animateur français bien connu.
Voilà, exactement. Vous avez Eric Fotorino, qui est dans l'association. Vous avez Jean-Marie Guénaud, qui est un grand diplomate, le fils de l'écrivain Jean Guénaud de Fougères. Vous avez Pascal Horry, l'historien académicien. Pascal, lui, son père était journaliste à Ouest-France, donc il est dans l'association. Vous avez Elsa Dacosta, qui est la directrice générale d'Ashoka France, qui est une grande ONG qui valorise l'action associative, la citoyenneté à travers les associations. Enfin, c'est que des gens comme ça qui ont un engagement personnel, qui partagent des valeurs humanistes. Vous avez Thomas Covid, le navigateur, par exemple, qui est un Rennais. Donc des gens qui partagent des valeurs humanistes, qui vont pas toucher un centime. Et il y a une soixantaine de personnes dans l'association. Donc voilà notre actionnaire. Voilà à quoi on sert. Et il nous semble absolument fondamental de le dire à nos lecteurs. C'est important qu'ils le sachent. Donc voilà, on l'a mis à la une depuis quelques semaines maintenant.
Voilà. Parce que vous ressentiez qu'il était urgent de le faire à ce moment-là ?
Oui, oui, oui. Et de rappeler, alors, on parle beaucoup de l'indépendance des médias, on est en plein état généraux de l'information, il se dit que l'indépendance des médias, c'est fondamental. Bien nous, on l'a mis en place il y a 34 ans. Je rappelle, 34 ans, François-Régis Hutin a eu cette intuition. Et je pense que c'est un visionnaire. Et aujourd'hui, sa statue est très moderne, en fait.
D'avoir une mission, en quelque sorte, au service du public.
Au service de la démocratie humaniste. Maintenant, ça ne sont pas que des mots. Il faut que ça se traduise très concrètement. Et on pense que l'information de qualité, vérifiée, l'information vraie, au plus près de la réalité des faits, dans une démocratie humaniste, c'est essentiel.
Quelques chiffres généraux sur Ouest-France hors numérique, dont on parlera plus tard. Ouest-France, ce sont 1600 salariés, dont plus de 700 journalistes, 600 000 exemplaires vendus chaque jour, 41 éditions. François-Xavier Lefranc, vous êtes né en Bretagne,
oui.
Vous avez intégré le groupe Ouest-France en 1985 comme secrétaire de rédaction, vous avez occupé des postes à Quimper, Lisieux, Vire, avant d'être nommé directeur départemental dans l'Orne et dans la Manche, vous avez été directeur de l'information régionale et locale de Ouest-France. Parlez-moi de l'ancrage local de Ouest-France.
En fait, c'est le socle. C'est le socle. C'est-à-dire notre zone historique, c'est quoi ? C'est la Bretagne, les Pays de la Loire et une partie de la Normandie, ce qu'on appelait la Basse-Normandie, c'est-à-dire l'Orne, le Calvados, la Manche. Donc ça, c'est la zone de diffusion historique du journal. Le journal, il a été créé à la Libération. Le premier numéro est sorti le 7 août 1944. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de destruction dans l'Ouest. Et donc, le journal a apporté beaucoup d'informations pratiques pour permettre aux gens de, voilà, pour permettre à la vie de redémarrer, en fait. Et l'ancrage local, ça s'est très vite traduit par des journalistes en nombre important, présents sur le territoire, par un réseau de correspondants locaux de presse. Alors, correspondants locaux de presse, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont d'ailleurs pas des salariés, c'est des informateurs qui sont dans les communes. Et il y en a aujourd'hui 2300 à Ouest-France, et 780 journalistes, vous l'avez dit. Donc, un réseau humain au plus proche des gens. Et c'est ça, la proximité physique, la proximité géographique, partout sur le territoire, dans les villes, dans les campagnes, un réseau humain qui est important. Et la vie locale, c'est tellement important. L'endroit où l'on vit, l'endroit où l'on se lève le matin, où on emmène les enfants à l'école, où on consomme, où on vit, tout simplement, c'est une notion qui reste importante. Et donc, nous, on veut parler de la vie locale, mais on peut pas comprendre la vie locale, on peut pas comprendre la vie de nos régions si on ne comprend pas la vie du monde. Donc, dès qu'Ouest-France est né, il a été convenu que nous parlerions de l'information de la commune au monde. De la commune au monde, c'est-à-dire de ma commune au monde. Et aujourd'hui, il y a peu de sujets. On voit bien comment l'actualité internationale impacte nos vies quotidiennes. Et donc, cet axe-là qui a été décidé en 1944 était vraiment le bon axe, puisque ça plaçait déjà Ouest-France comme un média qui relève la tête, qui a ses racines sur un territoire, et ça, c'est évidemment fondamental, mais qui, à partir de là, regarde le monde. C'est bien à l'image de l'Ouest, d'ailleurs, cette région qui a toujours été tournée vers le monde. Et puis après, alors, le numérique est arrivé, on a eu des outils qui nous ont permis d'aller bien au-delà de l'Ouest, mais l'ancrage local, ça reste aujourd'hui fondamental.
L'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste a confié à votre directoire la mission de, je cite, « travailler au renforcement du rayonnement national de Ouest-France ». Pourquoi, François-Xavier Lefranc, Ouest-France veut-il devenir un média national ?
Nous estimons que nous sommes un média national, fait ailleurs qu'à Paris. La nation, elle rayonne sur plein de territoires, y compris Outre-mer. Et c'est comme ça qu'il faut la voir. Nous avons une plateforme numérique, avec une audience qui est très forte, puisque en nombre de pages vues, nous sommes la première plateforme française. En nombre de visites, nous sommes la deuxième plateforme française, derrière le Figaro. Ça représente, le mois dernier, 185 millions de connexions par mois. Mais 80% de cette audience se fait hors de l'Ouest, c'est-à-dire se fait hors de notre zone historique. C'est-à-dire que nous sommes déjà presque plus flux à l'extérieur de l'Ouest que dans l'Ouest.
Ça veut dire que la notoriété de marque de Ouest-France dépasse ses frontières.
Voilà. Voilà. Mais avec un engagement très fort en direction de la diversité des territoires. Vous avez parlé de l'Outre-mer. Nous avons aujourd'hui des correspondants partout, dans tous les territoires ultramarins. C'est un réseau qu'on a mis en place il y a 3-4 ans. En 2024, nous doublons notre effort éditorial sur l'Outre-mer, parce que nous estimons que ces territoires-là ont un rôle absolument essentiel qui est trop oublié. On parle beaucoup, alors je fais peut-être un peu un raccourci, il y a les Jeux Olympiques à Paris, on parle beaucoup de la qualité de l'eau de la Seine. C'est bien la qualité de l'eau de la Seine, mais la qualité de l'eau qui coule au robinet de Mayotte, c'est aussi important. Et voilà ce qu'on pense à Ouest-France. C'est ça, Ouest-France, en fait.
C'est que le national, ce ne sont pas juste les frontières hexagonales,
exactement.
C'est également l'outre-mer.
Mais exactement, exactement. Il n'y a pas les grands territoires et les petits territoires, il n'y a pas les vrais citoyens et les autres qui seraient des citoyens de l'ombre dont on ne parlerait jamais. Nous, on est là pour parler de la diversité des territoires français. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, je ne prétends pas. Il y a plein de médias qui peuvent porter ce combat-là. Mais nous le portons avec beaucoup de conviction. La démocratie humaniste, c'est bien la démocratie humaniste dans ce qu'elle rayonne sur l'ensemble des territoires français.
Vous parliez de l'outre-mer, j'en profite aussi pour saluer celles et ceux qui écoutent RFI en Guyane sur le 98.7 FM grâce à nos deux émetteurs situés à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. On parlait de médias nationaux, il y a eu une petite guéguerre ces derniers mois sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, sur la question de la bataille des journaux du dimanche, puisqu'on avait suivi l'actualité avec le JDD, le journal du dimanche, la Tribune Dimanche, et Ouest-France qui rappelait, notamment par la voix de Cyril Petit, que vous étiez aussi un journal du dimanche.
Mais nous sommes un journal du dimanche, alors je vais faire des comparaisons, c'est pas pour rouler des mécaniques, mais c'est simplement pour rappeler les choses. On diffuse 4 fois plus d'exemplaires que le JDD et on diffuse 15 fois plus d'exemplaires que la Tribune. dont je salue la renaissance d'ailleurs. Quand un média naît et se développe, il faut le saluer. Et je trouve ça très bien, ça augmente l'offre. Mais nous sommes évidemment un grand quotidien du dimanche. Nous sommes là chaque jour. Mais c'est pas ça qui est important en fait. On aime bien se comparer. Mais nous sommes là le dimanche parce que le dimanche aussi il y a de l'actualité. Donc nous sommes un média qui diffuse de l'information tous les jours, 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24. Également, puisque nous avons une rédaction, nous avons des correspondants à l'étranger qui, au cœur de la nuit, aux États-Unis, au Canada, au Japon également, alimentent notre plateforme numérique. Donc voilà, nous sommes un média, un grand média, ouvert sur le monde et qui diffuse de l'information en permanence.
Et qui veut sortir des infos Ouest-France. Exactement. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus ces temps-ci.
Oui,
est-ce que je me trompe ?
Non, mais c'est un critère de qualité. Est-ce qu'on est capable d'être singulier ? Est-ce qu'on est capable de ne pas ressembler aux autres ? Est-ce qu'on est capable d'avoir notre voix propre ? Et ça nous paraît essentiel d'être un média utile. Il faut être utile. Est-ce qu'on apporte vraiment quelque chose d'utile aux gens qui nous lisent, singulier, différent des autres, et donc qui apporte des informations qu'on ne trouve pas ailleurs ? C'est, je pense, un grand critère de qualité, ça, à Ouest France. Enfin, on se bat pour ça. On réussit pas tous les jours, mais on se bat pour ça. Et puis, on a aussi la volonté d'être engageant, c'est-à-dire d'abonner le maximum de lectrices et de lecteurs. Ce lien de l'abonnement, qui dans notre modèle économique, au passage, est important, parce que nous, on n'a pas d'actionnaire, donc il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Et donc l'argent, c'est l'argent des lecteurs, de ceux qui décident de nous lire. Et puis un peu la publicité, 23-24%, le reste, c'est bien l'abonnement. Et donc, cette bataille de l'abonnement, de la fidélisation, de la conversation permanente avec les lectrices et les lecteurs, ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui.
J'aimerais que l'on parle de chartes ensemble, François-Xavier Lefranc de Ouest France. Alors, pas des chartes d'éthique et de déontologie, mais de deux chartes en particulier. Tout d'abord, de la charte des faits divers et de la justice, qui chez Ouest France date de 1990 et vient d'être révisée. Alors, je n'oublierai jamais mon premier fait divers traité pour Ouest France. C'était en 2008, un homicide à Condé-sur-Noireau. Et je me souviendrai aussi toujours de François-Régis Hutin, dont vous parliez tout à l'heure, disant au CDD d'été en visite à Rennes, à Chantepie, je cite, « Un journaliste n'est pas un auxiliaire de justice ». C'est une notion pour vous importante aussi.
Exactement, exactement. Et il définissait ainsi le bon positionnement du journaliste. Nous ne sommes pas des juges. Nous sommes journalistes. Et ça, dans notre charte éditoriale, c'est majeur. On n'est pas là pour condamner. On est là éventuellement pour dénoncer des situations qui doivent être dénoncées, mais nous ne sommes pas là pour condamner. Et il ne faut pas confondre les rôles. Et je pense que aujourd'hui, on voudrait, ou beaucoup, peut-être trop de journalistes, voudraient occuper une place qui n'est pas la leur. Je pense qu'il est essentiel que nous nous concentrions, nous, les journalistes, sur le journalisme. C'est-à-dire un rapport aux faits extrêmement exigeant. S'approcher au plus près de la réalité des faits et puis prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Essayer de comprendre les situations. De comprendre les regards contradictoires qu'il peut y avoir sur une situation. C'est ça, le journalisme. C'est du travail. Ça demande beaucoup de travail. Alors, cette charte des faits divers, elle énonce un certain nombre de principes. D'abord, le respect des personnes. Alors, c'est pas du baratin, le respect des personnes. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on s'interdit de faire.
On sait qu'un journaliste pourrait détruire, ou un média pourrait détruire la vie d'une personne en la mentionnant, par exemple.
En la mentionnant, ou en la mentionnant de façon maladroite, quand le nom est imprimé, ou quand il est sur un support numérique, oui, les écrits restent. Et donc, il faut à chaque fois se poser la question. Il faut à chaque fois se dire, est-ce que le mot est juste ? La justesse des mots, c'est un combat qu'on doit mener. La justesse de notre expression, de notre vocabulaire, de notre orthographe, de notre syntaxe. Parce que la justesse des mots, ça permet d'être au plus près de la vérité de l'info.
La révision de cette charte était nécessaire par l'accélération du numérique ?
Bien sûr, elle est permanente. Elle est permanente, donc il y a des réactualisations en permanence. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur la question des féminicides, par exemple. Sur la question aussi liée à la publication des faits divers sur Internet. L'information presque en direct, ça pose des questions éthiques exceptionnellement importantes. Et donc, il faut se les poser. Et donc, on a régulièrement des groupes qui se réunissent et qui travaillent à partir d'exemples très concrets pour savoir si on a été conforme à notre charte et si les chartes doivent être aménagées. En fait, des chartes, ça sert pas... C'est pas quelque chose qui est figé, qui est gelé. Les chartes, c'est un cadre de réflexion pour une rédaction. Et c'est essentiel. Alors, beaucoup de médias, maintenant, ont des chartes, et c'est très bien ainsi. Et ça permet de dire aussi à nos lecteurs d'être très transparents, dire, voilà, nous, comment on veut travailler. Et nos chartes, d'ailleurs, elles sont publiées sur notre plateforme numérique, n'importe qui peut les voir.
Alors, la deuxième charte, c'est une charte qui a trait à votre traitement des enjeux écologiques. Oui. Certains journalistes ont pu reprocher à Ouest France le fait de parfois de ne pas être assez dur envers certains, ou de ne pas être assez offensif envers certains lobbies industriels, céréaliers, qui, on le sait, ont beaucoup prise dans les territoires.
Oui, agroalimentaires.
Voilà, qu'avez-vous à répondre à ces critiques?
Vous savez, d'abord, c'est très injuste, parce qu'il y a des générations de journalistes à Ouest-France qui ont suivi ces sujets-là. La première page agricole dans Ouest-France, elle a été créée en 1946. Et depuis, Ouest-France a raconté jour après jour l'évolution du monde agricole et de l'industrie agroalimentaire. Et Ouest-France a abordé tous les sujets, y compris les plus sensibles, presque au fil de l'eau, jour après jour. Alors évidemment, souvent... Ça peut apparaître moins qu'un livre qui sort ou qu'un film qui sort et qui dit les choses. Mais tous ces sujets-là sont des sujets qui ont été abordés. La question des algues vertes, par exemple, c'est un sujet qui a... Il y a eu des milliers d'articles dans Ouest-France sur les algues vertes. Nous, ce qu'on veut, c'est faire vivre aujourd'hui un débat sur ces sujets-là, avec les différentes parties concernées. Les filières économiques, les professionnels, les citoyens. Et c'est ce qu'on fait très concrètement dans le journal, à travers des événements qu'on organise. On est là pour ça, pour faire vivre le débat. Et l'agriculture, il faut la connaître. Et on pense bien la connaître. Et aujourd'hui, le modèle agricole, qui a à la fois permis de nourrir la population, et qui en même temps a causé des dégâts sur le plan de l'environnement. Et il faut le dénoncer, ça. Mais comment fait-on? Et c'est là que le vrai sujet commence. Comment fait-on? Et donc, il faut en débattre. Et nous, on aime beaucoup ce débat-là.
Et enquêter.
Donc, il faut enquêter, bien sûr. Il faut enquêter. Donc j'ai envie de dire, quelle est l'information que Ouest France n'aurait pas publiée? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Est-ce qu'il y a une information que nous n'aurions pas publiée, que nous aurions refusé de publier? Et je peux vous assurer qu'il y a eu dans l'histoire de la rédaction d'Ouest France bien des journalistes agricoles qui ont fait le boulot. Hein. Je peux vous assurer, y compris à des époques où c'était pas forcément facile, où on parlait très peu de ces sujets-là, et où ces sujets-là étaient quand même abordés chez nous. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est un grand journal. Une grande institution, quelque part. Donc, ça peut être tentant de dire « les petits médias font le travail ». J'avais même lu ça une fois dans un journal national, ça m'avait fait bondir, parce que c'était méprisant pour les régions, méprisant pour la locale, méprisant pour le travail de local, où on disait « la presse nationale fait le boulot parce que la presse régionale ne fait pas le boulot ». C'est inacceptable, ça, d'entendre ça. Inacceptable. Et c'est très méprisant. Le système médiatique français est plus jacobin que la République. C'est pas peu dire. Et donc, vous avez des tas de gens ici à Paris qui pensent qu'ils sont les seuls à faire le boulot.
Et cette centralisation vous agace d'une certaine façon.
Ah, mais elle est insupportable. Elle m'insupporte. Enfin, moi, c'est pas moi qui compte, mais elle nous insupporte. Je veux dire, il y a dans les territoires des journaux qui font le boulot. Nous, on est en Bretagne. Y a un autre journal en Bretagne qui s'appelle Le Télégramme. Je peux vous assurer que la rédaction du Télégramme, c'est une rédaction qui fait son boulot, comme celle de Ouest France. Il y a une diversité de titres, et tant mieux. Voilà, mais il faut pas être injuste, il faut surtout là aussi regarder la réalité des faits. Voilà, il faut enquêter sur ce que font les médias.
Ouest France, François-Xavier Lefranc, ne fait décidément pas les choses comme tout le monde. Par exemple, vous n'allez pas diffuser de sondage d'intention de vote pour les élections européennes prévues en juin. Vous vous étiez tenu à la même ligne lors de la dernière présidentielle française. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler pourquoi?
Oui, alors, on a arrêté 3 mois avant l'élection, en fait. Pour être très clair, l'élection a lieu le 9 juin, donc on s'est arrêté 3 mois avant. Ce qu'on met en cause, ce n'est pas le travail des sondeurs qui font leur boulot, ils font des sondages. Ce qu'on pointe du doigt, c'est l'accumulation par les médias des sondages d'intention de vote, du matin au soir, jour après jour, qui provoque une présence médiatique tout à fait inégalitaire de la part de gens, quels qu'ils soient d'ailleurs, quelles que soient les personnes, quels que soient les candidats, mais qui sont, selon les sondages, en tête des élections, et donc dont le nom est rappelé sans cesse. Et tout ça se fait au détriment de la réflexion sur les vrais sujets du moment. Les élections européennes, il y a des questions majeures à aborder. On se fout de savoir, enfin nous à Ouest France, on se fout de savoir qui est en tête dans les sondages. C'est pas ça le sujet. Et donc on veut que notre temps journalistique soit consacré à l'enquête, au reportage sur les vrais sujets posés par cette élection. Voilà. Je pense que on arrive même à une manipulation des esprits avec cette accumulation de sondages. Au moment de la présidentielle, c'était mais pathétique. C'était même, moi j'étais extrêmement choqué pour mon métier. et Dieu sait si je l'adore ce métier de journaliste que je pratique depuis plus de 40 ans, mais de voir en octobre-novembre les sondages qui étaient assénés jour après jour, et en fait, quand l'élection a lieu, le jour du vote, on s'aperçoit que les résultats sont différents, mais foutons la paix aux gens, laissons-les réfléchir, voyons chacun des candidats, essayons en plus d'avoir un temps de parole à peu près identique pour chacun des candidats. Enfin, c'est une élection, ça peut pas être des journalistes qui choisissent qui sont les grands candidats et qui sont les petits candidats.
En radio et en télévision, actuellement, c'est la période de l'équité qui prévaut, et pas de l'égalité.
Non, tout à fait, mais bravo pour cet effort d'équité. Et d'ailleurs, il faut souligner, parce que on le dit pas assez, mais pour les rédactions concernées, c'est un sacré boulot, hein, de devoir tout mesurer. Et ce travail-là est fait en France. Et je pense qu'au passage, qu'on peut être fier du boulot que fait le service public de l'information, qui est très souvent injustement critiqué. Et je tiens à le dire aussi, parce qu'il faut le préserver.
Voilà, ici au sein de RFI, il y a des gens qui comptabilisent les temps de parole actuellement, ouais, et qui toutes les deux semaines doivent transmettre ces paroles, donc par les candidats ou ceux qui sont des sympathisants. On doit transmettre un comptage très précis à l'ARCOM, donc qui est le CSA ou la Haute Autorité des Médias en France et qui comptabilise tout cela. Vous écoutez RFI, l'atelier des médias. Mon invité est le directeur de la publication du quotidien français Ouest France, François-Xavier Lefranc. J'aimerais que l'on parle ensemble modèle économique, puisque l'écosystème médiatique actuel laisse la presse exsangue, les ventes baissent alors que le marché publicitaire est capté par les plateformes comme Google et Facebook. On le disait tout à l'heure en introduction, François-Xavier Lefranc, le quotidien, votre quotidien dépend d'une association à but non lucratif depuis une trentaine d'années. Comment joue-t-on les équilibristes dans cette situation compliquée ?
Mais écoutez, c'est très simple. Comment est-ce que l'argent entre ? Vous avez la publicité, je vous ai dit, ça représente 23-24% à peu près de nos revenus. Vous avez ce que paient les lecteurs. Et ça, c'est l'essentiel. Ce que paient les lecteurs, les lecteurs qui s'abonnent, ou les lectrices et les lecteurs qui achètent à l'acte. Voilà. Vous avez un peu de subventions. Alors, les subventions d'État, c'est quoi? On dit souvent les médias sont subventionnés. C'est à l'exemplaire. L'exemplaire, c'est 1,35€. Les subventions représentent 0,2 centimes. C'est ça, très précisément, pour Ouest France.
Voilà. Au numéro, vous n'êtes pas forcément un des quotidiens les plus aidés en France comparativement à bien d'autres.
Non, exactement. Exactement. Et alors, il y a une autre source de revenus. Nouvelle, celle-là. C'est ce qu'on appelle les droits voisins. Les droits voisins. Les droits voisins qui sont un scandale. Alors, on va dire pourquoi c'est un scandale. Je vais expliquer ce que c'est. Alors, c'est les droits voisins des droits d'auteur. Ce sont les droits que paient les grandes plateformes numériques, comme Google, Facebook...
Apple, Amazon, etc.
Oui, sauf qu'eux ne les paient pas, parce qu'ils utilisent nos contenus pour faire de l'audience et faire du fric. Pour parler très concrètement, la circulation de l'information sur les grandes plateformes numériques provoque beaucoup d'audience. Et cette audience, elle génère des revenus de publicité, captés par les grands acteurs que sont Google et tous les autres. Et donc, à ce titre-là, l'Europe a prévu que les GAFA devaient payer des droits qu'on appelle les droits voisins, c'est les droits voisins du droit d'auteur. Nous, à Ouest France, on a repéré une trentaine d'acteurs qui devraient payer des droits voisins. Il y en a deux qui en paient, après avoir tout fait pour ne pas en payer, c'est Google et Facebook. Et ça, c'est un scandale. Les grands acteurs du numérique ont capté l'essentiel du marché de la publicité. Nos sociétés ont accepté que le monde numérique ne soit pas régulé. C'est une gigantesque zone de non-droit. Je caricature à peine. En 96, aux États-Unis, dans le droit américain, a été inventé ce qu'on appelle la section 230, qui expliquait que les plateformes numériques, on n'appelait pas ça plateforme numérique à l'époque, mais n'étaient pas responsables de ce qu'elles diffusaient. Et donc, à ce titre, et au nom de la liberté d'expression, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je rappelle que beaucoup de gens en sont morts. Alors, on n'est pas en train de rigoler, là.
Ils ne sont pas éditeurs de leur contenu, là où des médias sont éditeurs de leur contenu.
Moi, je suis
responsable devant la loi.
Voilà, je suis directeur de la publication d'Ouest France. Si dans Ouest France, dans l'une des 41 éditions, il y a un article qui diffame quelqu'un, je serai, moi, personnellement et pénalement condamné, et c'est très bien ainsi. C'est-à-dire, je suis responsable. Il y a une responsabilité. Et donc, on fait attention à ce qu'on fait. On fait attention à ce qu'on fait aussi parce qu'on a des valeurs, mais les plateformes numériques ne sont pas responsables. Google, je vais prendre l'exemple de Google. Google appartient à une maison mère qui s'appelle Alphabet. 304 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023, 73 milliards de bénéfices.
Vous connaissez les chiffres par cœur, c'est dire si cela ça vous fait enrager.
En 2022, 60 milliards de bénéfices. L'année d'avant, 76 milliards de bénéfices. Voilà de quoi on parle. C'est-à-dire des entreprises monstrueuses richissime, plus puissante que des États, et dont le système est basé sur la non-régulation. Voilà. Twitter. Quand Elon Musk dit à Thierry Breton, commissaire européen, nous ne paierons pas les droits voisins, parce que c'est ce qu'il a dit, voilà, nous n'appliquerons pas le droit européen. Et quand Thierry Breton lui dit, mais monsieur Musk, quand même, essayez de contrôler les contenus de ce que vous diffusez sur votre plateforme, eh bien, monsieur Musk lui répond avec un grand sourire, mais, enfin, pas un grand sourire, il sourit peu, mais, je ne vois pas de quoi vous parlez. Voilà à qui nous avons affaire. Et ce même monsieur Musk, quand il vient à Paris, il est accueilli comme un quasi-chef d'État, parce qu'il a des fusées, parce qu'il fait des voitures électriques, eh bien, continuons comme ça et notre démocratie sera foutue par terre. Cette situation est inacceptable.
Voulez-vous tout de même nous dire qu'un jour, peut-être, vous allez retirer West France de certaines de ces plateformes qui ne jouent pas le jeu ?
Alors, en fait, on les utilise pour diffuser un peu d'informations. On les utilise en essayant d'être le plus possible indépendant de ces plateformes, qui pourraient être au passage de beaux outils pour la démocratie. Je rappelle quand même, moi je ne suis pas contre les plateformes numériques, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Tant qu'ils sont sociaux, je ne suis pas contre eux. Quand ils deviennent antisociaux, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'il est temps de réagir. Mais on ne peut pas accepter que ces entreprises qui sont des pompes à fric n'appliquent pas le droit. On demande simplement qu'elles appliquent le droit, c'est tout. Qu'elles appliquent le droit. Le droit existe, il n'est pas appliqué. Voilà, c'est aussi simple que cela. Pourquoi ? L'activité de ces entreprises, tous les jours, porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes. C'est une réalité. Il y a des gens qui se suicident après avoir été harcelés sur des réseaux sociaux sur lesquels il n'y a aucun contrôle. Est-ce qu'on va continuer à accepter ça ?
Vous en avez fait un éditorial il y a très peu de temps, d'ailleurs.
Oui, j'en ai fait plusieurs. Et puis, on fait des éditoriaux, on va faire des procès aussi. Parce que maintenant, enfin, je pense qu'il faut des batailles judiciaires, il faut mener des procès, les gagner, qu'il y ait enfin une jurisprudence, que le droit soit appliqué. Je rappelle, nous demandons l'application du droit, rien de plus. C'est tout.
Et face à cela, donc, le rôle des médias, pour vous, justement, dans cette situation, c'est d'essayer de revendiquer leur singularité, de développer leur notoriété de marque, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi leur audience sur leurs environnements propres et de ne pas aller diffuser leurs informations ailleurs. Oui. Où se trouvent pourtant les lecteurs, d'ailleurs ?
Alors, c'est d'investir dans le journalisme de qualité. Et ça coûte très cher, le journalisme, pour produire des informations crédibles. Et c'est ensuite de les diffuser, c'est d'aller chercher les lecteurs là où ils sont. Et ils sont souvent sur les réseaux sociaux. Donc nous allons aussi chercher les lecteurs sur les réseaux sociaux, tout en disant que ces réseaux sociaux doivent respecter le droit. Je rappelle, faut que les choses soient claires, je ne veux pas être caricaturé, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je demande simplement à ce que, comme n'importe quelle entreprise, ils respectent le droit. Voilà. Et donc, on va chercher les lecteurs là où ils sont. Nous devons innover. Nous devons inventer des formats nouveaux. Nous devons nous développer avec des techniques d'expression journalistique comme la vidéo ou le son qui n'étaient pas à l'origine quand West France a été créé notre spécialité. Donc on doit devenir ce qu'on appelle un média global capable d'utiliser plein d'outils pour parler à un public extrêmement large là où il est.
Alors vous avez lancé un concours par exemple là-dessus, le Next Gen Media Challenge qui est à ce sujet-là.
Oui, c'est ça. Alors l'idée à chaque fois, c'est d'inventer des choses en fait, de trouver de nouveaux formats. Je pense qu'un lecteur, ça se mérite. Il faut aller le chercher et c'est fini le temps où les gens allaient chercher le journal qui n'avait qu'à attendre que les gens viennent à lui. Mmh. Et heureusement, on a changé d'époque. Et donc aujourd'hui, c'est à nous de nous bouger. Donc c'est ce que l'on fait avec des technologies nouvelles. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais elle pourra être un bel outil pour aider le journalisme, mais certainement pas pour le remplacer, mais pour l'aider, à condition que là aussi, tout ça soit encadré par le droit.
Et quand vous voyez Le Monde, par exemple, faire cavalier seul en signant avec OpenAI, qu'en pensez-vous côté West France, François-Xavier Lefranc ?
Alors, ça pose des questions. Moi, j'aime bien Le Monde, j'aime bien leur côté indépendant. Sauf qu'en faisant ça, je ne sais pas s'ils fragilisent ou s'ils consolident leur indépendance. En tout cas, ils ont fait ce choix-là. Ils l'ont expliqué de façon très transparente à leurs lecteurs. Et je pense qu'il faut le souligner. Hein, c'est pas le lecteur, les lectrices et lecteurs du Monde ont été bien informés de ce qui s'était passé. Ben, c'est un choix qu'ils ont fait et puis on verra. Mais là, la question qui est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les technologies d'intelligence artificielle ont besoin de nos données, ont besoin de ce qu'on appelle notre patrimoine éditorial, pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc, est-ce que confier notre patrimoine éditorial n'est pas nous mettre en état de dépendance ? Et c'est ça la question. Voilà, donc on verra. Hein. Mais en tout cas, ils ont au moins le mérite d'expliquer les choses, de le dire. Puis écoutez, on regardera. L'intelligence artificielle, nous, on n'en a pas peur. On pense que ça peut considérablement aider le journalisme. Ça peut aider le travail d'enquête, par exemple. Quand on fait des enquêtes et qu'on doit manipuler beaucoup de data, de données, l'intelligence artificielle peut apporter des solutions tout à fait intéressantes. Et puis, pas que dans le journalisme, dans le domaine de la santé, ça va être des technologies qui peuvent vraiment apporter des progrès importants. Mais là encore, on revient au même sujet. Avec un outil, avec un couteau bien aiguisé, on peut tout faire, on peut même tuer quelqu'un. Donc, où est le droit? Quelles sont les règles? Et quel est le cadre éthique? C'est ça le sujet, en fait.
Et combien ça coûte aussi? Quels investissements pour parvenir à cela? Et pour ça, l'Union généralement fait la force.
Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est sûr que là-dessus, il faut investir. Quand on n'avait que le papier, ça coûtait cher d'investir dans des rotatives. Le numérique, ça coûte encore plus cher parce que les investissements sont encore plus importants. Donc c'est à nous d'avoir une politique d'investissement dynamique. Mais pour ça, il faut une économie saine. Il faut être capable de dégager chaque année ce qui est nécessaire pour investir. Nous sommes condamnés à être vertueux et c'est une bonne condamnation.
On a parlé de la nécessité d'informer en toute responsabilité. On note aussi que Ouest-France veut se développer, c'est d'ailleurs dans le rôle de votre nouveau directoire, de développer des thématiques passion, la voile, le jardinage, la cuisine, les jeux, d'essayer aussi de divertir et d'inspirer les audiences.
Oui, c'est-à-dire nous sommes convaincus que l'information, c'est-à-dire l'actualité, c'est une chose, mais notre public attend aussi autre chose. Vous avez employé le mot de passion, c'est bien ça. Nous, on est sur un territoire historique qui est tourné vers la mer. La voile est un sport très populaire dans l'Ouest, c'est pas le seul, hein, mais sur le sport passion, il faut évidemment être présent. Au passage, la rédaction sportive de Ouest-France est la deuxième de France après l'équipe. Il y a 80 journalistes sportifs à Ouest-France. On a créé des postes ces dernières années. On croit beaucoup au sport et on croit beaucoup au traitement du sport en élargissant la focale sur l'économie, sur la politique, le côté sociétal. Et donc le sport est un champ d'investissement éditorial extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Mais toucher les gens sur ce qui les passionne, ça peut être la cuisine des territoires par exemple, on fait beaucoup de choses autour de ça, ça peut être l'histoire, ça peut être le patrimoine, ça peut être ça peut être aussi les jeux, c'est-à-dire apporter des jeux intelligents qui permettent avec l'actualité ou sans l'actualité, mais d'exercer son esprit. Il y a plein de contenus extrêmement importants. Vous savez qu'il y a des grands médias internationaux qui, si on prend le New York Times, hein, qui, par exemple, la moitié de ses abonnés, ils en ont près de 10 millions, la moitié de ses abonnés, c'est pour les jeux, les recettes de cuisine, le côté ludique. Mais on n'est pas là,
c'est pas quelque chose de sale pour vous que de vous lancer dans ces sujets-là.
Bien évidemment, non. Et il faudra autre chose que la seule monétisation de l'info pour asseoir notre modèle économique. Et je trouve ça très bien. Il faut apporter des contenus qui soient des contenus de qualité et qui peuvent être autre chose que de l'actualité.
Et justifier le tarif du coup de l'abonnement à un quotidien comme Ouest-France qui est à l'année de...
Il y a plusieurs formules d'abonnement, mais si on s'abonne au journal, on est autour de 400 euros à l'année. Donc ça devient presque un produit de luxe et ça c'est terrible. Et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On ne veut pas que l'information devienne un produit de luxe. Donc on est très attentif à ça. On mène beaucoup d'actions pour permettre à des gens qui ont très peu de moyens, voire pas de moyens, d'avoir accès à l'information. On veut que les jeunes de 18 à 35 ans puissent avoir accès gratuitement à l'information. Donc on leur permet ça. Je vais prendre un exemple. Depuis 20 ans, on distribue chaque jour gratuitement Ouest-France dans les prisons de l'Ouest. C'est-à-dire dans les cellules. Dans chaque cellule, vous avez Ouest-France qui arrive gratuitement. Ça nous coûte 300 000 euros à l'année. C'est un choix qu'on a fait il y a 20 ans, considérant que l'accès à l'information, c'est un premier pas vers la réinsertion. Voyez, donc on a beaucoup d'actions comme ça, y compris auprès d'associations qui aident des publics en difficulté pour leur permettre d'avoir accès au journal. Donc on y consacre pas mal de moyens, c'est important, ça fait partie de nos engagements, permettre que l'information soit accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est un beau combat.
Essayez-vous aussi d'avoir un rôle vertueux ou un rôle moteur pour l'écosystème informationnel dans ces territoires-là, en soutenant des publications tierces, en invitant des certains acteurs à s'exprimer différemment dans vos colonnes ou à créer leurs propres médias, peut-être.
Oui, alors je pense que on a besoin, dans les médias, on a besoin de diversité, on a besoin d'innovation, on a besoin... Moi, je trouve ça formidable, tout ce tissu de petits médias qui se créent, les médias indépendants, enfin petit, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais c'est souvent avec quelques journalistes qui lancent un média. Je trouve ça formidable.
Alors Mediapart les soutient avec son fonds pour une presse libre.
Oui, oui. Alors nous, on n'est pas engagé là-dedans, mais on pourrait l'être un jour. En tout cas, c'est, il faut encourager ça. On a besoin de diversité médiatique. Une démocratie, pour être vivante, a besoin d'une grande diversité de médias. Des médias qui peuvent avoir une longue histoire, des médias qui sont nouveaux, des médias qui... je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Nous, on a beaucoup travaillé sur l'accès à l'information. Auprès de publics qui n'y ont pas accès ou qui ont très difficilement accès. Ça, c'est quelque chose qui nous, qui est un engagement historique de Ouest France.
François-Xavier Lefranc, on a parlé d'ancrage local et national même de Ouest France. Parlons aussi d'ancrage peut-être dans la francophonie au-delà, parce que bon, RFI, c'est la première radio française et première radio francophone. Ouest France est le premier quotidien français et premier quotidien francophone. Quelles sont vos visées plus largement au niveau de la francophonie?
Alors, avec le sport, par exemple, on fait beaucoup de choses en direction de la francophonie. La récente Coupe d'Afrique des Nations, on l'a suivi de très près, on a fait plein de lives, on a eu de très grosses audiences. Et il arrive parfois qu'on ait sur des soirées de live sportif, des grosses audiences en Afrique. Par exemple, je trouve ça formidable. Et après, ben c'est la francophonie. Il faut la voir comme une chance, une opportunité. Et puis à nous d'être à la hauteur, à nous de concevoir demain des produits éditoriaux nouveaux qui pourront intéresser un public bien au-delà de nos frontières régionales ou nationales. Autour du maritime, par exemple, qui est une force de Ouest France, on développe beaucoup l'actualité maritime, l'économie de la mer, le maritime de défense, qui sont des sujets internationaux. Je pense qu'on apporte des contenus qui peuvent intéresser bien au-delà. Hein, on réussira ça par des efforts éditoriaux, d'innovation éditoriale qui sont à développer.
Alors je ne peux pas ne pas vous poser de questions sur les Jeux Olympiques qui approchent. Oui. Quel sera le dispositif pour le premier quotidien francophone?
Alors c'est un gros dispositif, on a 25 accrédités. C'est un effort éditorial de plusieurs mois, on a évidemment commencé. On va faire tous les jours un supplément numérique et on aura chaque jour dans le journal évidemment des efforts spéciaux. On veut raconter les Jeux Olympiques en n'oubliant pas tout le reste et en regardant aussi les à côté. En tout cas, c'est un bel événement. Enfin, il faut aussi... le sport offre des moments quand même assez exceptionnels, mais on le fait en mettant en avant les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme. Nous sommes capables d'être très sévères avec le sport quand il ne respecte pas les valeurs essentielles. C'est aussi comme ça qu'il faut le regarder. Mais je pense que les Jeux Olympiques, ça peut être aussi un moment où on pense un peu à autre chose, où on s'aère un peu l'esprit devant des performances qui font toujours rêver. Maintenant, on fera du journalisme, du bon journalisme. Et puis, on est comme tout le monde. On est à la fois fasciné, en même temps, parfois énervé par certains aspects des choses. Je vous parlais de l'eau de la Seine tout à l'heure. Ça peut pas être le sujet majeur d'occupation de l'esprit des Français cet été, même si c'est un sujet important. Donc on veillera à ça aussi à Ouest France.
Un des vieux slogans de RFI, c'était « Ce qui se passe loin nous touche de près ». Et voilà, pour Ouest France, c'est « Ce qui se passe près peut toucher loin », si je pourrais terminer là-dessus.
Elle est belle, cette formule, parce qu'il faut être intelligent, il faut relever la tête, il faut essayer de comprendre la racine des questions qui se posent à nous. Et il y a peu de sujets importants pour nous au niveau local qui n'est pas un prolongement international, européen. On parlait de l'agriculture tout à l'heure. Comment comprendre la vie de nos régions si on comprend pas les grandes questions agricoles au niveau européen ou mondial? Et donc, on a cette chance d'être un média qui a d'abord un gros service international, qui a des correspondants partout dans le monde et qui donc peut aussi traiter ces sujets-là. Et c'est ce qui fait de nous, je pense, un média un peu singulier, avec cette accroche territoriale assez unique.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François-Xavier Lefranc.
Eh bien, merci. Merci, ça a passé très vite, en fait.
Nous avons passé 40 minutes d'entretien ensemble. Vous êtes, je le rappelle, le président du directoire et directeur de la publication de Ouest France, premier quotidien français. Merci d'être venu sur RFI. À bientôt.
Merci.
L'Atelier des médias, c'est une émission de radio diffusée d'abord en podcast et dans une version plus longue à l'image de l'entretien avec François-Xavier Lefranc que vous venez d'écouter. Je vous donne rendez-vous chaque samedi sur l'application de podcast de votre choix. Je vous recommande évidemment Pure Radio, l'appli qui donne toute leur place au contenu audio de RFI. L'Atelier des médias vous est proposé par Simon Decreuse qui réalise l'émission et que je remercie, et moi-même, Steven Jambeau. Pour nous contacter, envoyez-nous un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.